Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Gilles Clément. Gilles Clément est paysagiste, botaniste, écrivain. J'ai eu la chance de réaliser 2 documentaires avec lui, l'un au Jardin du Rayol et l'autre sur la route du Maïdo à La Réunion. Des souvenirs incroyables de couleurs, de surprises, de remises en question de ce qui ne semblait être un beau jardin surtout. Car c'est avant tout ce que Gilles Clément m'a appris. En tout cas, c'est ainsi qu'il aime se décrire, être un jardinier. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors, dites-nous pourquoi de tous vos talents, de ce que vous revendiquez surtout, c'est ce rôle de jardinier.
Le jardinier a la possibilité de faire des paysages, quelquefois minuscules échelles, mais parfois aussi très grandes, tout dépend du terrain dont il s'occupe. Mais il est obligé de le faire avec du vivant, puisque c'est son métier, il travaille avec les végétaux. Ce qui veut dire aussi par le système biologique des relations avec toutes les autres espèces, qui travaillent aussi avec des insectes, avec des animaux différents. Le paysagiste, lui, n'est pas dans cette obligation. Il peut faire des paysages avec du béton, avec des terrasses, avec des jeux pour enfants, des reliefs, installer des tas de choses qui ne sont pas forcément des êtres vivants dont il devra s'occuper dans le temps, pas du tout. Il les combine, bien sûr, la plupart du temps, mais ça n'est pas une sorte d'obligation, alors que le jardinier, oui.
Oui, alors, en fait, le jardin peut être tout petit et vous êtes aussi le père de la notion de jardin planétaire. Donc, on passe de ce tout petit enclos à ce jardin planétaire. Qu'est-ce que cela veut dire,
hein ? Cela veut dire que la planète peut être regardée comme un jardin pour 3 raisons. La couverture anthropique, c'est la, trois raisons. Je ne sais pas jamais quelle est celle qu'il faut mettre en premier, mais enfin bon. Dans un jardin, le jardinier, il est partout. Sur la planète, les humains sont partout. Ils vont dans des endroits quelquefois un peu étranges, mais ils connaissent cette planète, s'ils ne font pas quelque chose sur le sommet d'une montagne à 8000 mètres, mais ils y vont quand même. Le jardinier, même dans les endroits où il ne s'occupe pas, il sait qu'est-ce qu'il y a. Il est un peu partout. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire, on pourrait la mettre en premier, mais enfin bon. C'est-à-dire que dans un jardin, c'est l'histoire du premier jardin humain, ce qui correspond à la première sédentarisation, il y a une importation. On est allé chercher une plante, 2 ou 3 ou 10, qui était bien connue, qu'on ramassait, qu'on cueillait, c'est le long des périnats, des pérégrinations, des humains migrants avant d'être sédentarisés. Et ils ont fait le premier jardin à ce moment-là. C'est aussi le début de l'agriculture, mais enfin minuscule. Avec la troisième raison, qui est l'enclos. Le premier jardin est immédiatement un enclos, parce qu'il faut le protéger de la prédation, c'est-à-dire de quelques animaux qui viendraient brouter ce qu'on a eu du mal à aller chercher et à planter. Et donc, quelquefois, on est allé les chercher assez loin, ça a demandé de l'énergie, on n'a pas envie qu'ils soient mangés par les animaux. Mais comme vous savez, avec les moyens de transport qui sont de plus en plus évidemment rapides, pratiquement, on peut avoir tout de suite une plante qui vient de l'autre bout du monde. La tomate et les pommes de terre sont arrivées plus lentement, mais elles ne sont pas de chez nous, il y en a partout. Ça, c'est le brassage planétaire. L'enclos, c'est cette protection. La définition même du mot jardin veut dire enclos. Enclos et paradis, mais enfin bon, au paradis, on n'en sait encore trop rien, mais disons que l'enclos, c'est sûr. Et il se trouve que la planète, justement, le vivant de la planète, est dans un enclos. Cet enclos, et ce sont les limites de la biosphère. c'est 10-11 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8-10 000 mètres en dessous. C'est une petite couronne, une petite épaisseur, quoi. Et c'est pas grand-chose. Hein.
Et en fait, c'est ce que les hommes avaient très très mal appréhendé.
Ça, bien sûr. Ça, on a eu du mal à le mesurer, ce qui est normal, puisque on n'avait pas les outils pour ça. Mais enfin, aujourd'hui, on sait très bien que la vie, telle que nous la connaissons du moins, elle n'existe pas a priori en dehors de ces limites-là. Donc on est effectivement dans un enclos, le vivant est dans un enclos, et on peut dire que pour ces trois raisons-là, on est vraiment dans le cas du jardin.
Mais alors, ce que vous définissez en plus, c'est que ce jardin est en mouvement. C'est-à-dire que vous avez une histoire à nous raconter qui est celle des biomes. Qu'est-ce que c'est qu'un biome ?
Un biome, c'est un ensemble de compatibilités de vie sous un climat déterminé. J'ai beaucoup travaillé sur le biome méditerranéen pour le domaine du Rayol, qui est situé en pente méditerranée en France. Et le thème de ce jardin est justement l'ensemble des végétaux capables de vivre dans ce climat-là. Et qui sont originaires de tous les continents. Hein.
Et là, vous faisiez vraiment preuve d'innovation, parce que ce qu'on tentait de faire aussi bien dans les jardins méditerranéens, en fait, on essayait d'y faire la même chose que dans les jardins du Val-de-Loire. C'est-à-dire, on essayait d'y mettre des plantes qui fleurissaient, etc. Et vous avez, introduit dans le jardin du Rayol des plantes qui n'étaient pas celles que les visiteurs attendaient, forcément.
Non, mais qui avaient la capacité, qui ont la capacité de vivre sans qu'on s'occupe d'elles, puisqu'elles sont dans leur milieu. Évidemment que dans le choix que nous avons fait avec d'autres jardiniers, on est allé voir, dans ces zones climatiques mondiales, au Chili central, en Afrique du Sud ou ailleurs, en Australie, on a cherché les espèces qui pouvaient aussi vivre dans un sol qui avait le pH, disons, le niveau d'acidité que celui du domaine du Rayol. Sinon, on n'y serait pas arrivé. Et toutes les espèces qui sont là, elles ont besoin d'une surveillance, disons, oui, mais pas d'une assistance comme d'autres plantes historiquement en bande fleurie, dans les jardins sophistiqués, depuis l'époque des jardins classiques. Non, on n'a pas dû ça du tout, du tout.
Et c'est là que vous gagnez la partie, parce que quand on est dans une période de sécheresse comme celle qu'on vit aujourd'hui, où on a forcément une obligation à restreindre l'arrosage, votre jardin à vous, il existe.
Oui, alors, l'histoire de l'eau est une gestion difficile. On doit, de toutes les façons, si on veut avoir quand même quelques légumes dans le potager, on doit mettre une couverture, hein, c'est-à-dire un mulch ou un broyat, enfin quelque chose qui empêche qu'il y ait une évaporation. Ça n'est pas faisable partout et on n'a pas le droit d'arroser quand il fait sec, sauf si on a un golf. Hein, là, on a le droit.
Oui, malheureusement.
Ça. Non, mais c'est la honte absolue. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi monstrueux comme message. Mais bon, on peut aussi essayer de trouver des plantes qui ont l'habitude de vivre dans des milieux qui ne sont pas arrosés, qui ne sont pas forcément complètement secs toute l'année, mais qui ont beaucoup moins besoin d'être sous l'abondance de l'eau comme nous avons d'habitude.
Vous nous apprenez même pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, je disais, ces séries floristiques existent et il y a presque toujours des plantes pour tous les milieux sur la planète.
Voilà. Et vous nous avez même appris que des plantes qui, dans ces milieux, comme les milieux méditerranéens ou comme les milieux secs, étaient susceptibles de brûler, enfin étaient très sensibles au feu, à la limite, oui. Le feu pouvait presque les aider à vivre.
Oui, ça c'est ce qu'on appelle les pyrophytes. Il y a des plantes qui, à force d'avoir subit les feux en fin de saison estivale. Ça a toujours été comme ça, même avant que les humains soient sur la planète. Ce sont les éclairs, les premiers orages qui déclenchent ces feux sur un sol qui a été asséché pendant plusieurs mois, et ça fait un incendie. Ça a sélectionné vraisemblablement certaines espèces qui ont disparu à cause du fait qu'elles n'ont pas pu se retrouver dans ce milieu, face à ces accidents, mais ça n'a pas sélectionné tout, et dans le mécanisme de l'évolution, il y a aussi ce qu'on appelle le transformisme lamarckien, c'est-à-dire le fait que dans le courant de la vie d'un être, il y a quelque chose qui change et qui est transmis à la descendance. Cette théorie-là, qui est la première, le père de la théorie de l'évolution, c'est pas du tout Darwin, c'est Lamarck, c'est 50 ans avant Darwin. Le choc, c'est darwinien, c'est la sélection. C'est l'idée à laquelle on se tient encore aujourd'hui, parce que ça coïncide très très bien avec les performances économiques, sportives, etc. Puis tout le reste, on le jette à la poubelle. Si on passe, on est les meilleurs, c'est faux. C'est complètement biologiquement faux. Les deux mécanismes existent, mais celui du transformisme, il a une importance énorme. Parce que les plantes qui se sont fabriquées par rapport à ce genre d'aléas, par exemple le feu, eh bien, il y en a même qui ont besoin du feu pour se reproduire, parce que leurs graines vont attendre des chocs thermiques qui vont venir par les incendies, sinon elles ne germeront pas. Ça s'est découvert de façon spectaculaire dans les incendies de Yellowstone il y a une vingtaine d'années, hein, je ne sais plus exactement la date, mais depuis très longtemps, il n'y avait pas eu d'incendie, et les botanistes avaient en tout cas nommé une plante comme étant fossile, et tout à coup elle apparaît, elle vit. Elle est vivante, oui, mais il n'y avait pas eu d'incendie. C'était c'était une pyrophyte qui attendait, ce qui est extraordinaire. Hein. Le pouvoir de patience des végétaux est fantastique par les graines. Donc oui, il y a ce mécanisme-là, et c'est très, très intéressant. Il faudrait le mettre un petit peu plus en avant, et surtout aujourd'hui, on sait qu'on est en changement climatique, et que se priver des espèces qui arrivent et qui s'installent, parce que justement, elles sont contentes de vivre là, tandis que les autres, qui sont là depuis un peu plus longtemps, pas depuis toujours, mais depuis un peu plus longtemps, bon, et qui ne peuvent plus parce que ça ne leur convient pas, alors on n'a plus rien si on supprime tout.
Alors, merci parce que c'est vous qui faites la transition, effectivement, et qui nous ramenez à notre sujet. Donc, ces fameuses vagabondes, celles que vous aimez tant, toutes ces plantes et ces graines qui vont voyager à travers la planète sur nos chaussures, nos chaussettes, portées par le vent ou portées par les animaux. Toutes ces plantes qui viennent d'ailleurs et qui n'étaient pas là les premières, peut-être, aujourd'hui, on les pourchasse. Et vous n'êtes pas d'accord avec ce fait qu'on pourchasse ces plantes?
C'est une ignorance totale sur la question propre du vivant. Et manifestement, ceux qui font les lois n'ont pas fait d'études de sciences naturelles. C'est vrai qu'elles ont disparu depuis longtemps, ces études-là, mais ces enseignements, c'est tragique. Mais en arriver à ce niveau-là d'ignorance est terrible. Ça coïncide bien entendu avec des visions politiques, racistes, folles. Les humains aussi sont des êtres fragiles. Ils ont besoin de vivre avec des conditions qui ne sont pas toujours faciles et résolues partout, et en particulier la question de l'eau. Et ils se déplacent pour accéder à un lieu où il est possible de vivre. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis que Homo sapiens existe, et même Néandertal. Ils allaient là où on peut vivre, c'est tout. Donc combattre tout ce qui est de l'ordre de la migration, c'est juste ignorant et fou et cruel.
Mais quand même, on peut constater à certains moments que ces migrations, on va en parler, enfin je vais vous laisser nous en parler parce que vous en parlez très bien, mais elles vont se réguler d'elles-mêmes. Mais on a aussi parfois quand même une ou deux espèces qu'on peut considérer comme envahissante. Par exemple, si on prend le raisin marron à La Réunion, enfin moi j'ai vu, il est quand même purement envahissant, quoi.
Oui, il est envahissant. Alors lui, c'est drôle parce qu'il a été apporté par un prêtre, je ne me souviens plus. Je pensais que c'était qu'on allait pouvoir en faire du vin de messe. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas une vitacée, de toute façon, l'erreur. Et la plante s'est multipliée, effectivement, elle est très contente de vivre là, et elle occupe le terrain, mais où? Elle l'occupe dans des endroits où il y a eu
Il y avait déjà eu quelque chose, oui.
Voilà. Donc, on a laissé la place à toutes les espèces qui sont des pionnières, effectivement, envahissantes, au départ, en tout cas. Mais si on laissait faire la dynamique qui va vers le climax forestier, le maximum de végétation possible pour le lieu déterminé, elles seraient beaucoup moins nombreuses, ces espèces-là. Elles céderaient la place à des buissons, puis finalement à des arbres, et au bout d'un moment, peut-être qu'elles seraient encore là, mais pas aussi, pas avec autant de présence.
Vous voulez dire qu'une plante, d'elle-même, trouverait sa propre régulation ?
Oui, mais bien entendu, elle n'est pas capable de lutter contre toutes les autres qui sont là et qui sont très très puissantes. Encore faut-il que les autres reprennent la place du terrain. Quand on a déboisé, fait un labour, planté, etc., cultivé, et qu'on abandonne, là, on fait la place aux pionnières. C'est pareil quand on fait une route, le bord des routes, ce sont des pionnières. Et c'est là qu'on trouve les espèces dont on dit qu'elles sont invasives. Bah oui, elles sont juste pionnières, c'est tout.
D'accord. Donc en fait, on retrouve le court terme et le long terme, quoi. Le court terme absolument, de la décision et le long terme de la vie.
Oui, bien sûr, avec un équilibre. Alors après, peut-être qu'il y a des bagarres, ça peut arriver. On attribue une partie de la disparition des espèces à ce brassage planétaire, mais cette partie-là, si on fait l'étude vraiment précisément, il apparaît qu'elle est extrêmement faible par rapport à tout ce qui est la destruction, mais totale, par la chimie, par l'imperméabilisation, par l'agrandissement des villes, par la suppression des sols, tout simplement. Mais quand on tue déjà les sols qui sont des substrats fragiles et qu'en plus on les supprime et qu'on fait de l'aide, il ne reste plus rien là. Et alors bon, là vraiment il y a une disparition, oui bien sûr.
Alors, il y a une chose à laquelle vous tenez aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle les délaissés, les friches. Essayez de nous en parler un petit peu.
Les délaissés, ce sont des espaces dont les humains ne s'occupent plus. Mais ça, avant que les humains n'arrivent, il n'y avait que ça. Et c'était l'équilibre de ce que j'appelle le tiers paysage. C'est la majorité des espaces qui sont des terrains d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs, de tous les espaces où l'homme intervient. Bon, parce qu'on fait des sélections. C'est normal hein, pour faire une culture. Ça, c'est un peu violent, mais on garde une plante, on tue toutes les autres. Bon, mais dans un endroit où on n'intervient pas du tout, où le sol a sa richesse, toutes sortes d'espèces peuvent venir. Et là, on voit très vite, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de plantes majoritairement invasives, comme on dit bêtement. Il y a des plantes qui se présentent avec un peu de dynamique au départ, les pionnières en question, et petit à petit, on arrive à quelque chose qui est très équilibré. Ça, c'est le tiers paysage. C'est un ensemble de délaissés sur la planète, et il y en a tout de même pas mal, heureusement. Ça finit toujours par une forêt, hein. En tout cas sous nos climats à nous, il y a plus de masses boisées aujourd'hui dans les forêts de terrains qui ont été abandonnés, parce qu'en pente, pas commode, dans tous les reliefs, qu'il y a une centaine d'années. Une centaine d'années, même là, on y allait avec les animaux à pied, on allait... Aujourd'hui, les tracteurs, ils passent plus là. Hein. Donc de toute façon, c'est donné à la nature elle-même et sa dynamique, tant mieux.
Dans l'émission de la semaine dernière, on avait donc des responsables du Conservatoire botanique national, et notamment Louise, hein, qui nous expliquait que la grande berce du Caucase, il fallait absolument la combattre parce qu'elle était dangereuse, irritante, etc. Et vous l'avez plantée dans votre jardin à la vallée et vous l'aimez.
Il est semé, parce que planter, on n'y arriverait pas, c'est une plante annuelle. Hein.
Pardon.
Elle se multiplie que par... Non, mais c'est pas grave. Elle se multiplie que par les graines. Et justement, c'est très intéressant de la jardiner, grâce à ça, je dirais. Oui, je l'ai semé, puis j'ai rien vu pendant 4-5 ans. Puis au bout d'un moment, j'ai vu arriver les jeunes. Alors, elle a mis beaucoup de temps pour venir. Pourquoi ? Je sais pas, bon. Et puis après, elle a fait... comme font tout ce genre de plantes à cycle très court, se multipliant par les graines, elle s'est répandue. Et effectivement, elle peut être envahissante, mais à partir du moment où elle est dans son milieu, qui est en général une terre filtrante, mais en humidité, près pas loin d'un ruisseau. C'est presque toujours comme ça, s'il n'y a pas l'humidité et l'acidité, ça ne marche pas. Donc elle n'est pas partout, du tout. En plus, elle est donc à cycle court, ça veut dire que elle meurt après avoir fait les graines. Et là, il y a une possibilité d'intervenir quand on est dans un jardin. Pour qu'elle n'envahisse pas tout l'espace qui est en sol un peu humide, eh bien, on coupe la hampe florale quand les graines sont presque mûres, mais pas tout à fait, les fleurs ont fini, il n'y a plus bon, voilà, et bien, elles ne se multiplient plus. Mais, assez curieusement, et c'est très intéressant, hein, moi j'ai découvert ça dans mon jardin, elle se dit, j'ai pas fini mon boulot, elle ne peut se multiplier, elle ne peut assurer sa pérennité que par les graines, pas par un appareil végétatif quelconque. Donc elle repousse pour refaire des graines, mais tout de suite, quoi, elle essaye. Ça marche pas toujours, au bout d'un mois, elle se fatigue, et au bout de quelques années, en jardinant comme ça, on risque de les faire complètement disparaître. Donc moi, tous les 10 ans, je laisse regrainer. Voilà, c'est juste une plante qui a besoin de ça pour survivre, hein. C'est pas la seule, hein. Toutes les plantes annuelles et bisannuelles font ça. Et comme elle est immense, gigantesque, elle monte à 3 mètres de haut, elle fait des ombelles sublimes, elle attire les insectes, enfin elle est vraiment intéressante, elle change le paysage d'une année sur l'autre parce qu'elle n'est pas au même endroit. Les graines ont circulé, transporté par nous, les chaussures, les humains, le vent, n'importe, et ça fait un changement même architectural du paysage. Alors dangereuse, bah non, pas dangereuse, quand on sait qu'elle est photosensibilisante, on ne va pas aller la caresser quand on transpire en plein été. Et c'est pareil avec la berce spondyle de chez nous. Elle est un peu moins puissante en photosensibilisation, mais c'est la même chose. Donc, qu'on arrête avec ça, quoi.
Mais ça veut dire que ça s'enseigne, ça veut dire que ça s'apprend.
Mais évidemment, sauf que cet enseignement qui s'appelait autrefois les sciences naturelles a disparu complètement. Toutes les heures qui étaient dédiées à ça ont été vers plutôt les calculs, les mathématiques, la performance, etc. Mais la connaissance du lieu dans lequel on habite, non.
C'est venu de la physique, de la chimie.
Oui.
Voilà. Oui. Mais ce n'est plus des sciences nattes, vous avez raison. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais petite, effectivement, on ouvrait une fleur, on essayait de comprendre ce qu'était une fleur. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui.
Ce sont les enseignants qui, eux, en ont marre de faire d'enseigner des bêtises et qui emmènent les enfants en tournant le dos à la direction, hein, pas que ça se sache, pour leur montrer dans la nature comment ça se passe. Alors il se trouve qu'il y a quelques établissements qui ont décidé d'accepter ça. Mais sinon, la terre c'est dangereux, les plantes c'est dangereux, la nature c'est dangereux. Donc on reste ignorant totalement là-dessus en se mettant à l'abri. Mais c'est monstrueux. De bêtises.
Hein. Ouais, bien sûr. Ça, de toute façon, plus personne ne veut regarder la nature comme étant porteuse de risques. On le voit aujourd'hui, la fascination des vagues, la fascination de la montée de l'eau, la fascination des incendies. Ouais. Enfin, l'être humain est fasciné par le risque.
Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est ce qui a fait vendre le mieux les médias, les journaux.
Donc, vous avez eu des discussions avec Francis Allais récemment, quand j'ai suivi, parce que c'était extrêmement intéressant. Et vous avez défendu, tous les deux, vous êtes d'accord sur le fait que finalement, il n'y a pas de plantes endogènes, quoi. Il n'y a pas de. Toutes les plantes ont voyagé.
Ben bien sûr. Alors
prenons l'exemple du chêne. Vous aviez pris l'exemple du chêne et je trouve que c'était tellement parlant que...
Ben oui, les chênes n'étaient pas là il y a 10 000 ans, mais 10 000 ans dans l'histoire de la planète, c'est un petit quart de seconde, donc c'est rien du tout. Et à la fin de la dernière glaciation, ils sont arrivés par un petit réchauffement progressif depuis le sud de la péninsule ibérique et depuis le sud de la péninsule italienne. Et certaines sont arrivées assez suffisamment haut. On en trouve jusqu'au nord de la France, bon voilà, mais dans le sud un peu plus en diversité. Mais disons qu'on les a sacralisés, ces chênes. Non, c'est l'arbre des druides, nana, etc. Ils étaient là avant nous, pas du tout. Enfin, il faut dire que nous, on vient d'arriver par ailleurs, ça c'est sûr. Mais ils n'étaient pas là.
Alors, à quel moment donc est-on indigène?
On n'y est jamais. L'indigénat n'existe pas. C'est une idée culturelle intéressante, mais qui est complètement fausse. Disons qu'il y a des gens qui habitent un certain lieu depuis plus longtemps que d'autres, qui connaissent mieux ces lieux. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais avant leur arrivée, ils n'y étaient pas, tout simplement. Les humains, ils ont migré, depuis toujours, hein. En plus depuis l'Afrique. Alors peut-être que c'est là le lieu où il y avait les humains le plus au départ.
Alors, il nous reste environ 3 minutes. Moi, j'aimerais bien entendre parler Gilles Clément, écrivain, poète, un petit peu. Mais peut-être que vous avez un message plus important à nous délivrer dans cette fin d'émission. Donc, allons-y.
Bien, oui, c'est difficile de parler de ce métier complexe qui consiste à la fois dessiner, écrire, composer des jardins, et puis faire des conférences ou des cours de la pédagogie. C'est finalement une polyactivité et ça me convient très bien. Là, je suis en train de commencer une sorte d'essai qui peut-être aura pour titre « La raison tue ». Il se trouve que nous avons un cerveau trop gros et que nous lui écoutons.
Et qu'on est en train de se disperser et de ne penser qu'à cela, accroître ce savoir.
Voilà.
Dont on fait quoi, d'ailleurs?
on est dans l'illusion de la maîtrise, par effectivement un génie constructif sur la technologie et des inventions fantastiques, jusqu'à IA, comme on sait aujourd'hui, sauf qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est que l'intelligence biologique. On est incapable de communiquer correctement avec le monde végétal et animal, et on se tue. Et en le tuant, on se tue, nous, avec un peu plus long terme, mais ce sera la suite. Alors, on pourrait essayer d'éviter ça.
Bon, je vous sens un peu pessimiste, là.
Alors, je suis un peu pessimiste, oui, mais ça, c'est à cause du cerveau, là, qui est un peu trop gros, comme je disais. Mais si on prend conscience de ça et qu'on accepte de dire, eh bien, oui, on est dans l'illusion, à ce moment-là, on devient un tout petit peu plus prudent, plus modeste, et on essaie de comprendre comment ça marche, quoi, les plantes, et on s'émerveille. Là, il y a une source d'émerveillement, de découvertes fantastiques sur la communication qui existe entre des êtres dont on se demande comment ils font pour communiquer. Ils ont fait ça bien avant nous, ils ont inventé Internet.
Bien, merci Gilles. Je rappelle que vous avez écrit Éloge des vagabondes, entre autres, parce que vous avez écrit énormément et de très, très beaux livres. Je crois qu'il a été réédité récemment, Éloge des vagabondes.
Oui, il est réédité en poche.
Ah bon, voilà. Oui, alors moi j'avais la vieille édition, j'en suis très contente d'ailleurs. Bon, alors donc je conseille à tout le monde, en tout cas, tous nos auditeurs qui auront été intéressés par ces émissions sur les envahissantes, je leur conseille de lire ce livre, surtout s'il a été effectivement réédité en poche. Merci Gilles.
Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.